Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Retour des débats d'Europe Soir jusqu'à 20h. Dans un petit instant, on parlera bien sûr de Jean-Paul Belmondo. Aujourd'hui, les images de ses obsèques au lendemain d'un hommage national aux Invalides. Bien sûr, on parlera de la tristesse Belmondo, de la France aussi de Belmondo, cette France qui nous manque déjà. Mais d'abord, avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, avec Céline Hervieux, secrétaire nationale du PS, avec Amine El Khatmi, le président du Printemps Républicain, et le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean. On continue un court instant de parler des Républicains, puisque vous le savez, ce sont les journées parlementaires des LR qui se sont terminées aujourd'hui avec cette photo dont on a parlé. Donc j'en reparle pas, Pécresse, Bertrand, Barnier, Ciotti, Juvin, Wauquiez, Abad, Jacob Larcher à table et évidemment les discours des uns et des autres. Et ce matin, Xavier Bertrand, justement, reparlait de sa stratégie.
Nous serons unis, nous serons forcément unis. Je connais les différents participants possibles à cette élection. Bien sûr qu'il y a des différences de personnalité, de tempérament, parfois même de ligne politique, mais c'est la même famille politique.
C'est la même famille politique, dit Xavier Bertrand. Valérie Pécresse lui répond.
Je crois que s'il veut un pacte respectueux de tous les candidats et de la diversité des candidats, à ce moment-là, ce pacte s'appelle une primaire ouverte, c'est-à-dire un débat sur le fond de nos projets, devant les Français et avec tous les Français de la droite et du centre qui veulent l'alternance, qui peuvent choisir le candidat. Ça s'appelle la démocratie.
Bon, quelqu'un m'explique de quoi on parle là. Finalement, on tourne en rond là.
Oui, c'est un peu le manège, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on peut donner le point. On peut donner le point à Valérie Pécresse là-dessus. À partir du moment, enfin, je me place dans la situation où d'être dans leur famille politique et de juger
placez-vous,
de l'intérieur.
Placez-vous.
Mais à quel moment est-ce qu'un candidat peut dire de lui-même, je suis légitime et rangez-vous tous derrière moi sur la base de sondages qui le donne avec un point d'avance sur sa principale opposante. Ça n'a aucun sens, aucune réalité. Il faut que, a priori, au moins les militants, que les sympathisants de la droite républicaine puissent choisir leur candidat. Je vois mal comment est-ce qu'il peut y avoir un processus plus légitime que la primaire. Et contrairement à ce que Xavier Bertrand dit, ce n'est pas la primaire qui est la cause de la division ou la cause de la défaite de la droite en 2017. C'est ce qu'a fait François Fillon, les affaires. C'est aussi son positionnement ensuite qui a un peu surpris les Français. Mais en aucun cas, la primaire de 2016 n'a posé problème à la droite ensuite pour choisir un chef. Donc je ne comprends pas pourquoi il a peur de ce processus démocratique qui pourrait permettre de trancher de manière plus simple. Parce que honnêtement, si on regarde et si on met Xavier Bertrand à l'intérieur de cette primaire, et ben ils n'ont plus de problème. Il suffit juste de trouver un calendrier et ils choisiront un chef dans 2 mois. Mais apparemment, il ne veut pas. Et on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas.
Amine El Khatmi, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas?
Je ne sais pas, il faut lui demander. Je ne suis pas.
Généralement, c'est ce que vous répondez. Je ne suis pas dans la tête.
Je ne suis pas son porte-parole. Moi, j'étais plutôt un partisan de la primaire. On avait travaillé sur ce sujet avec Arnaud Montebourg, qui l'avait beaucoup porté au PS il y a quelques années. Et je trouvais que c'était une belle innovation. Et maintenant, je suis farouchement contre. Parce que c'est d'abord une manière de confisquer le choix des Français, cette espèce de présélection. Et puis, on voit bien que l'électorat auquel s'adresse la primaire est l'électorat le plus radical. C'est-à-dire, c'est les militants, les sympathisants, donc ceux qui ont déjà une forme de conscience ou d'engagement politique, et donc ils choisissent toujours celui qui va le plus loin, le plus radical, le plus... Et d'ailleurs, on pourrait avoir une surprise dans la primaire écologiste, puisqu'ils ont une tradition, c'est qu'ils choisissent toujours le pire, celui qui va leur faire faire le score le plus bas. Donc ils ont préféré Madame Jolie à Monsieur Hulot, et là, ils vont sans doute permettre je ne sais pas si elle va gagner, parce qu'elle est allée assez loin, mais en tout cas, on peut imaginer que Sandrine Rousseau aura une dynamique. Après, moi, je viens du PS, je suis de gauche, donc je regarde ça comme vous,
Céline,
d'un peu loin. Mais je comme citoyen, je veux qu'il y ait une droite républicaine dans ce pays. Pour la qualité du débat public.
Parce
pour...
que, comme dans les entreprises, la concurrence, ça fait du bien, on s'entraîne l'un l'autre.
J'aimerais bien qu'il y ait à nouveau demain un parti socialiste fort, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui sont des républicains, qui sont exaspérés par les outrances de M. Mélenchon et par celles des écologistes, et qui aimeraient bien retrouver un parti socialiste un peu fort, qui retrouve de ses couleurs.
Ça veut dire qu'il vous gêne, il vous gêne à la fois Mélenchon et les Verts.
Non,
c'est
mais
ça
moi, il ne me gêne pas, c'est juste qu'il est devenu anti-républicain. Républicain,
il gêne les
et qu'à force de fréquentation complotiste, antisémite, à force de taper sur la justice, sur la police, de contester la légitimité du président de la République, de toutes les dérives qui sont les siennes, je considère qu'il est maintenant, il empêche même la gauche d'émerger, puisqu'il capte une partie de son électorat, il empêche toute autre force d'émerger. Donc j'aimerais bien que la gauche retrouve des couleurs, et j'aimerais bien
donc
aussi
vous
qu'il y ait
le retour d'un clivage.
Oui, parce que je ne veux pas que le débat politique dans ce pays se résume à une confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et évidemment, moi, je n'ai pas d'ambiguïté. Si demain, Emmanuel Macron est face à Marine Le Pen, voterai pour lui, comme je l'ai fait la dernière fois, sans aucun problème. Et je ne suis pas de ceux qui renvoient dos à dos, ou comme M. Ciotti qui dit « je préfère Zemmour à Macron », ou comme des mélanchonistes qui disent « Macron est pire que Le Pen ».
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a réussi à casser le clivage gauche-droite, mais qu'il a créé un clivage
extrême-droite. Mais je pense que ce clivage-là, il existe, si vous voulez. On n'efface pas l'histoire de familles politiques qui sont des histoires qui s'inscrivent dans la vie de notre pays. Le socialisme, on peut ne pas partager, ça veut dire quelque chose pour des millions de Français. Le gaullisme, la droite sociale, c'est une histoire dans le pays. Ça rappelle des choses aux gens. Ce sont des réformes, ce sont des avancées, ce sont des droits qui ont été donnés par des gouvernements de gauche et par des gouvernements de droite. Et donc, laisser sous-entendre que ce clivage n'aurait plus de réalité aujourd'hui et qu'effectivement, on serait dans un clivage entre d'un côté les démocrates autour d'Emmanuel Macron et de l'autre Marine Le Pen.
En tout cas, vous êtes exaspéré par une forme de droite qui se bagarre alors que vous voudriez une droite solide pour que ce clivage
réexiste. Oui, une gauche solide et que ce clivage...
J'essaie de résumer vos propos. Céline Hervieux.
Oui, mais en réalité, la droite républicaine, elle a déjà son candidat. En fait, Emmanuel Macron. C'est le gouvernement qui supprime l'ISF, c'est le gouvernement de la réforme des retraites et de l'allongement de la durée du travail, celui qui refuse le minimum jeunesse et le RSA pour les moins de 25 ans. Donc, dans les positionnements politiques pris et les réformes qui ont été entreprises par ce gouvernement, même s'il a été entravé, en effet, par un certain nombre de circonstances extérieures, on voit bien qu'il se positionne sur une ligne politique extrêmement libérale, plutôt à droite, assez conservatrice sur les thématiques de sécurité aussi. Donc finalement, le clivage gauche-droite, je pense qu'en tout cas, le peuple de gauche de France se rend bien compte que c'était pas en la position soi-disant du en même temps et centriste d'Emmanuel Macron qu'ils pourront se retrouver. Donc évidemment, je suis d'accord avec vous sur le fait que le Parti Socialiste travaille et doit continuer à travailler pour constituer une offre politique cohérente pour les enjeux qui arrivent.
Et pour retrouver un clivage gauche-droite.
Pour ce clivage,
là,
en fait, il existe.
Un peu en latence, voilà.
Il existe toujours. Après, c'est dans la manière de faire de la politique, dans le lien avec les citoyens aussi, dans ce rapport à la démocratie en France. Toutes ces choses, elles peuvent être pensées, y compris dans un clivage politique clair entre la droite et la gauche.
Louis Dragonel.
Juste une chose sur la droite. C'est comme si je vous disais Emmanuel Macron parle à la gauche parce qu'il y a une mesure sociale. Non, il parle à une toute petite partie de la gauche. Et s'agissant de la droite, il parle à une partie de la droite. Il parle à la droite libérale. Mais il y a tout un champ qui est la droite conservatrice. D'ailleurs, c'est la droite à laquelle Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, même Éric Zemmour essayent de parler. Et en fait, ça représente quand même pas mal de monde. Et des gens qui, pour le coup, n'aiment pas du tout le président de la République. Mais ce qui est intéressant, en fait, quand on regarde Xavier Bertrand et de l'autre côté les candidats à la primaire, Xavier Bertrand, il essaye de s'inscrire, en fait, dans une continuité historique du leader charismatique, la figure qui s'impose naturellement à droite. Et donc, il se dit, il n'y a pas besoin de primaire. Et voilà, parce qu'il sait aussi que la primaire, c'est la machine à perdre. Vous l'avez rappelé très justement et très brillamment tout à l'heure. Et de l'autre côté, effectivement, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel Barnier, comme il n'y a personne qui se dégage, ils sont obligés, ils sont dans le bocal, il faut bien qu'il y en ait un qui sorte du lot. Et c'est ça qui est un peu terrible, c'est-à-dire que tous les partis politiques aujourd'hui sont confrontés à cette problématique-là, c'est que personne ne se dégage naturellement. Regardez,
mais elle a raison, Valérie Pécresse, quand elle dit à Xavier Bertrand, s'il veut la jouer collective, il faut qu'il participe à une primaire.
Bien sûr, on se place dans la tête. Mais on se met dans la tête de Valérie Pécresse. Elle-même n'est pas ici, a quitté les Républicains. Elle a accepté de se soumettre à la primaire. On peut tout à fait la comprendre. Légitimement, elle a envie que Xavier Bertrand fasse le même processus qu'elle.
Il y a des règles du jeu.
Sauf que Xavier Bertrand, lui, il est parti bien en tête. Le premier, il a toujours dit qu'il ne se soumettrait jamais. Et puis les sondages qu'il regarde, même si bien sûr, Xavier Bertrand se rapproche de plus en plus de Valérie Pécresse, il est toujours un petit peu en tête. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ça va se terminer cette histoire? Parce que, effectivement, vous avez Xavier Bertrand qui dit, de toute façon, il ne restera qu'un seul candidat. Valérie Pécresse dit, il faut absolument qu'il y ait un seul candidat, mais que Xavier Bertrand se soumette à la primaire. Xavier Bertrand ne veut pas y aller. On a l'impression que c'est insolvable. En fait, ce qui pourrait se passer vraisemblablement, c'est qu'il y ait un candidat qui soit désigné par les Républicains. Xavier Bertrand, de son côté, continue de faire cavalier seul. Et puis, en fait, la bataille finale se fera entre le candidat issu des LR et Xavier Bertrand sera une bataille des sondages. C'est, ce qui, c'est comme ça que ça va se passer, Pierre. Et en fait, ça, ça se situera à peu près au mois de novembre. Donc, vraisemblablement, c'est ce qui devrait se passer. Et là, il y en a un qui sera obligé qui se retirer au profit de l'autre. Xavier Bertrand fait le pari que ce sera lui. Valérie Pécresse ou Michel Barnier, qui ont de fortes chances de l'emporter à la primaire, font le pari que ce seront eux.
Ambroise Méjean.
Je suis d'accord avec cette analyse, je pense que ça finira comme ça, mais j'aimerais juste réagir aux propos qui ont été tenus juste avant. Effectivement, Emmanuel Macron
est candidat.
Oui, effectivement, Emmanuel Macron est le candidat
du parti. Il n'est pas soumis à une primaire, Emmanuel Macron. Il a bien fait d'ailleurs, il a bien compris qu'il fallait pas créer de parti politique.
Il n'est pas soumis à une primaire parce qu'il a pris en 2017 un risque qui était celui de rassembler une partie de la droite républicaine et une partie de la gauche républicaine. Et quand vous dites qu'Emmanuel Macron est le candidat de la droite républicaine, oui, en partie parce qu'il a fait une partie de ce que la droite avait promis qu'elle ferait et qu'elle n'a pas fait au pouvoir. Mais il a aussi fait une partie de ce que la gauche avait promis de faire et qu'elle n'a pas fait. Il a fait
en même temps
la procréation médicalement assistée, il a mis en place le reste à charge zéro et sur les lunettes, sur les prothèses auditives et sur les soins dentaires. Il a aussi dédoublé les classes dans les REP et REP+, ce qui est une mesure qui est plus sociale que tout ce qui a été fait en termes d'éducation sous le quinquennat de François Hollande. Il y a le quoi qu'il en coûte qui est aussi une mesure sociale extrêmement puissante. Donc il y a chez Emmanuel Macron à la fois un respect des promesses qui avaient été faites à une partie de cette droite républicaine et à une partie de la gauche républicaine. Et moi je viens du Parti Socialiste et je ne me sens pas trahi par ce qui a été fait par Emmanuel Macron. Parce que j'ai la sensation que la social-démocratie est incarnée par une partie de ce que fait Emmanuel Macron.
Ambroise Méjean, Céline Hervieux, Amine Nkatmi et Louis Dragnel sont là pour continuer le débat sur les Républicains, mais aussi Jean-Paul Belmondo. Puis je vous rappelle cette information principale, Agnès Buzyn, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui dans le dossier de la gestion du Covid. L'ex-ministre de la Santé qui par ailleurs est placé sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre. C'est Europe 1, il est 19h29 et on revient dans un petit instant. À tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et on continue de parler des Républicains et de leurs avancées, ou pas, avec Louis Dragnel, avec Amine Nkatmi, Céline Hervieux et Ambroise Méjean. Céline Hervieux, secrétaire nationale du PS, Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, le président du Printemps Républicain, Amine Nkatmi, et le chef du service politique d'Europe 1. Louis Dragnel, j'ai failli dire Éric Zemmour parce qu'on va parler du livre d'Éric Zemmour.
Ça vous fait rire.
Éric Zemmour qui donc sort son livre la semaine prochaine. On en parle évidemment de ce livre et tout le monde parle d'Éric Zemmour, y compris Valérie Pécresse qui était à Chartres pour célébrer la France éternelle. On écoute Valérie Pécresse.
C'est une personne qui est très cultivée, c'est un journaliste, c'est un polémiste, mais je ne crois pas qu'il ait dirigé. Aujourd'hui, je gère 17 milliards d'euros, je gère 11 000 agents, je dirige une région qui a le PIB de la Belgique et je gère des problématiques qui vont des transports au logement, au social, à l'éducation, à la sécurité. Non, je ne crois pas que cette expérience-là, il la possède. Quand on est prêt à s'allier avec l'extrême droite, on ne partage pas les valeurs de la droite.
Voilà donc des propos recueillis par Alexis de la Fontaine, de Valérie Pécresse, qui était aujourd'hui à Chartres. On sent qu'elle marche sur des œufs, là, quand elle parle d'Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Pourquoi ?
Pour une simple raison, c'est qu'Éric Zemmour, qui n'est toujours pas candidat, mais il est déjà crédité de 7 ou 8% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Et en fait, il gratte. Ça paraît évident, des points au Rassemblement National, mais pas qu'au Rassemblement National. Il prend des points à la droite classique. Et d'ailleurs, lui se voit comme un candidat de droite classique. Et donc, pour tous les candidats de la primaire, peut-être à l'exception de Xavier Bertrand, qui est assez dur, vraiment qui le tape frontalement, eh bien, tout le monde fait très attention, parce que, attention, il ne faut surtout pas insulter de potentiels électeurs qui aiment beaucoup Éric Zemmour. Du coup, on marche sur des œufs, c'est pas simple. Et donc, on voit bien Valérie Pécresse, elle salue le
journaliste
du journaliste, tout en disant qu'elle partage pas tous ses points de vue. On voit que voilà, c'est pas très clair, c'est pas évident. Et pour la droite, c'est Éric Zemmour. La question que la droite se pose aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il peut gagner, c'est est-ce qu'il va pas tous nous faire perdre en fait. C'est ça la question que se pose à la fois les Républicains et le Rassemblement National.
C'est la question que tout le monde se pose.
Je ne sais pas si c'est la question que tout le monde se pose, mais moi je trouve assez hallucinant que quelqu'un qui justement se revendique de la droite républicaine soit aussi conciliant avec Éric Zemmour. Parce que, pardon, mais il faut quand même rappeler qui est Éric Zemmour, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et l'incompatibilité entre les valeurs de ce que doit être une droite républicaine et les propos que Éric Zemmour a pu tenir de manière régulière ou tient de manière régulière. Quand Éric Zemmour, j'ai repris les mots exacts, justifiait la discrimination à l'embauche en jugeant qu'il était normal que des patrons refusent des Noirs ou des Arabes et qu'il a été condamné pour ça. Quand il dit que tous les musulmans approuvent et considère que les djihadistes sont des bons musulmans, on est quand même sur des propos qui sont en dehors du champ républicain et qui sont en dehors de ce que la droite républicaine peut considérer comme normal. Et donc je trouve absolument indigne de la part de Valérie Pécresse de considérer que la seule critique qu'on pourrait faire à Éric Zemmour, c'est de ne pas avoir exercé de responsabilité. Oui, peut-être d'autres choses à pointer du doigt avant le manque d'expérience politique d'Éric Zemmour.
Amine El Khatmi.
Oui, enfin bon, après moi j'ai entendu Valérie Pécresse avoir des mots plus durs que dans cet extrait, mais effectivement, on voit bien, moi assez naïvement, quand l'hypothèse de sa candidature commençait à circuler, j'étais persuadé qu'il ferait baisser Marine Le Pen. Je me suis dit, voilà, il va lui faire perdre 7 ou 8 points, et y compris, je pensais qu'il pouvait, comme quoi je me suis planté, donc il va falloir que je me reprenne, qu'il pouvait compromettre... disais-je à mes amis, vous verrez, il va peut-être même réussir à compromettre la qualification de Marine Le Pen au second tour. Mmh. Et la réalité, alors c'est des sondages, on verra, et puis les sondages du mois de septembre par rapport au résultat final, il faut toujours être prudent. Ségolène Royal devait être présidente de la République, Lionel Jospin aussi, et Édouard Balladur aussi, et il y en a d'autres. Donc, et la réalité, c'est qu'il ne la fait pas tant baisser que ça, il fait plutôt baisser le potentiel candidat LR, auquel il prend de mémoire 3 ou 4 points si mes souvenirs sont bons. Et donc, effectivement, il y a une espèce de vent de panique à droite qui est pas tant de savoir si Zemmour peut se qualifier ou gagner. Je pense que ça paraît improbable à ce stade. Mais de faire perdre tout le monde, en fait, et d'aller chercher, effectivement... un électorat, allez pardon, je vais être un peu caricatural, un électorat manif pour tous, de gens de droite, de province, qui détestent Macron, là pour le coup c'est assez avéré, des gens qui sont un peu conservateurs et qui se disent, bon, ben on va se faire plaisir, voilà, parce que Zemmour, ben il est crèche, il est cash, il est trash, et on va se faire plaisir et on va voter pour lui, et donc cet électorat-là, il peut effectivement manquer, il peut manquer au candidat de droite.
Mais ils sont là, les 7-8% à peu près de Zemmour. Pas forcément.
Ils sont là, mais alors ce qui est très étonnant, c'est quand on regarde les ventilations, alors c'est un peu de la cuisine de sondage.
De sondeur, ouais, c'est dommage qu'on en a pas un ce soir.
Mais quand on regarde, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, et moi qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il parle à la fois des catégories supérieures, des CSP+, et puis il y a des catégories, des milieux beaucoup plus populaires. Mmh. Et spontanément, je pensais pas qu'il arrivait à convaincre autant de CSP+. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à observer. Et d'ailleurs, il faudrait creuser derrière pour savoir pourquoi.
Mais on va creuser.
Parce que les CSP+, sont plutôt des catégories qui votent pour Emmanuel Macron ou alors pour un candidat de droite assez modéré ou de gauche assez modéré. Là, la nouveauté, c'est qu'ils votent effectivement pour quelqu'un qui est comme ça dans la défense de convictions, effectivement assez engagé, très poussé.
Madame Hervieux.
Oui, en effet, moi je fais partie de celles et ceux qui ont été très inquiétés par ce score, ces sondages, effectivement 7%, ça semble énorme pour quelqu'un
qui... Vous pensez combien, vous, comme ça, à vue de nez? Parce qu'on en a parlé avant qu'il y ait des sondages.
Il n'est pas encore candidat, donc quand il sera candidat, vous verrez, ça va... Il y aura l'effet candidature, donc ça va mécaniquement augmenter un petit peu.
En plus, donc c'est très inquiétant, franchement, pour la France, le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme.
Mais quand vous dites 2-3%, je pense que beaucoup d'observateurs se reconnaissent dans cette fourchette qu'on disait comme ça.
On s'est tous plantés, en fait.
Anecdotique, voilà. C'est quelqu'un qui, certes, peut avoir des analyses géopolitiques intéressantes, qui est effectivement cultivée, mais Ambroise le rappelait tout à l'heure, et je le rejoins tout à fait. Enfin, on est sur quelqu'un qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine, pour injures. Donc, dans un moment où le pays a besoin, justement, de s'unir et de se rassembler, c'est précisément l'inverse qu'il propose. Donc, c'est un modèle qui, moi, à titre personnel, en tant que citoyenne, m'effraie au plus haut point, et j'espère vraiment que sur le plan des idées, on sera à même de le combattre, parce que c'est une vraie menace. On est dans un moment où la société se crispe, se tend. On voit que les sujets de sécurité prennent de plus en plus d'ampleur et d'espace dans le débat public. Donc, il est très important qu'on puisse constituer des offres politiques, que ce soit à droite, dans la droite modérée, si j'ose dire, et à gauche, qui puissent répondre justement aux inquiétudes et aux attentes des Français, mais en dehors de ce type de positionnement qui est extrêmement radical et inquiétant.
Mais ça dépendra aussi des offres politiques qui seront faites par les autres.
Toujours.
Parce que vous dites, oui, les questions de sécurité, elles prennent de plus en plus de place.
Pourquoi ?
précisément parce que ça fait partie des trois premières préoccupations des Français et que les gens en ont ras-le-bol des voyous, des délinquants, en ont ras-le-bol d'une réponse pénale qui n'est pas appropriée, en ont ras-le-bol de voir dans un quartier de 7000 habitants 15 racailles qui se sont pris 20, 30, 40 rappels à la loi, qui sont passés dans les bureaux de policiers, de magistrats
et qui tiennent des checkpoints
et qui érigent des barrages où ils demandent aux habitants de décliner leur identité. Et donc l'erreur qui a été commise, et notamment par la gauche, et je peux me permettre d'être sévère à son égard puisque j'en viens, ça a été de considérer que les questions de sécurité, d'immigration, de lutte contre l'insécurité culturelle, c'était faire le jeu de la droite ou de l'extrême droite, et que nous, notre calendrier, c'était pas ça. Au contraire, je pense qu'il faudrait précisément la gauche, puisqu'on en vient, mais vous aussi, d'une certaine manière, aller justement répondre à ces inquiétudes en le faisant sans les outrances de Zemmour. Parce que Zemmour, il va y aller au bulldozer, il va y aller en caricaturant, en essentialisant, en disant que tous les migrants sont des violeurs, que tous les Arabes sont ceci et que tous les Noirs sont cela. Mais précisément, si on n'oppose pas à ce discours une réponse républicaine, sans outrance, sans excès, etc., mais qui en même temps dise aux gens, ben oui, l'ordre, la sécurité, le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est important. Une politique en matière de contrôle de l'immigration plus ferme pour mieux intégrer ceux qui sont là et expulser davantage ceux qui n'ont pas vocation à rester, c'est un vrai défi. Et effectivement, si on ne le fait pas, bah Le Pen et Zemmour continueront à
progresser. Mais de faire un plaidoyer pour Éric Zemmour, là, c'est un...
Non, pour une gauche républicaine, c'est le propos de mon livre, c'est précisément de dire... Ne laissons pas des millions de Français. Moi, je considère pas que les électeurs de Le Pen soient une masse de pestiférés fascistes qu'il faudrait comme ça traiter avec mépris. Regardez, je viens d'Avignon, je connais les électeurs du Rassemblement National. Je sais les craintes, les doutes, les exaspérations qui peuvent pousser des Français à aller se jeter dans les bras de l'extrême droite. Et je ne leur fais pas de leçons de morale à coup de F comme facho, N comme nazi, à bas le Front National. Je pense précisément que si on répond à leurs inquiétudes en leur disant oui, l'ordre, la sécurité, l'autorité de l'État, c'est important, on peut espérer obtenir des résultats.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Républicains et sur le cas Zemmour. Merci Louis Dragnel, Lamine El-Khatmi, Céline Hervieux et Ambroise Méjean. On revient dans un petit instant avec Jean-Paul Belmondo. À tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Dernière partie d'Europe Soir avec le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean, la secrétaire nationale du PS, Céline Hervieux, le président du Printemps Républicain, Amine El-Khatmi, et le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel. Je le disais en préambule, Belmondo, c'est une partie de la France qui s'en va. La France des 30 Glorieuses, celle du cinéma du dimanche soir à la télé, nostalgie, oui, mais je ne suis pas le seul à la ressentir, cette nostalgie. Écoutez le président de la République.
Belmondo fut la figure qui transperça les styles, traversa les époques, cassa toutes les barrières. Durant ces décennies, Jean-Paul Belmondo n'embrassa pas seulement les époques et les genres. Il épousa la France. Lui qui, par tous ses rôles, traversa à grandes embardées l'histoire de notre pays. Belmondo fut le visage de tous les bouleversements de nos 30 glorieuses. Belmondo, c'est un peu nous, en mieux.
Et voilà, Emmanuel Macron, hier, hommage national aux Invalides. C'est ça, c'est ce point que je voulais aborder avec vous, chers amis. On abordera le point de savoir qui, après lui, pourrait encore mieux représenter ça. Mais c'était cette... Belmondo, c'était cette France réconciliée, c'est cette France qui alliait les Rolls et les deux chevaux, cette Rolls qui prenait la, cette France qui prenait la fraternité. Il avait ce rôle social, Jean-Paul Belmondo.
Oui, et rares sont les personnages qui peuvent mettre l'ouvrier et le patron de l'usine devant la télé et ressentir la même émotion. Et c'est vrai qu'il avait cette capacité à parcourir, à traverser les milieux sociaux, les générations. Voilà, je pense que nous, on n'était pas là dans les années 70, on n'a pas connu la grande époque de Belmondo, mais on connaît Belmondo, on connaît ses films, on connaît des répliques, et voilà, et comme on connaît Brigitte Bardot, et comme on connaît Alain Delon, et comme on pouvait murmurer les chansons de Johnny, même si on était jeunes.
C'est vrai que Johnny avait ce rôle également.
Oui, et Johnny, lorsqu'il est mort, vous aviez les motards du nord de la France qui pleuraient en même temps que des avocats d'affaires qui écoutaient que je t'aime dans leur voiture en se promenant. Et donc voilà, dans un pays qui est quand même aujourd'hui, on le voit, divisé, où on essaie de séparer les gens, où on monte les gens les uns contre les autres, des éléments qui constituent un espèce de commun dans lequel chacun va se en tout cas une majorité va se reconnaître au-delà des différences, c'est assez rare et c'est pour ça que tout le monde était ému.
Est-ce que ce n'est pas aussi parce que la France a changé? Parce que aujourd'hui, c'est difficile de représenter une France unie avec toutes les crises qui ont été successives. On parle d'une France de Belmondo, c'est la France des Trente Glorieuses, des années de Montparnasse, avec les cinéastes. Il y avait une sorte d'insouciance qui aujourd'hui n'existe plus. Quand vous interrogez l'ouvrier dont vous parliez en 1964 ou 66 et vous l'interrogez aujourd'hui, il n'a pas du tout les mêmes préoccupations.
Non, mais bien
il
sûr,
est plus émerveillé.
Oui, puis le pays a changé. Puis sans doute que si des films de Belmondo sortaient aujourd'hui, on dirait mais c'est viriliste, c'est macho, et regardez comme ils traitent les femmes, et on aurait des papiers dans Télérama
ça,
et les Inrock.
C'est l'interview, vous êtes d'accord avec ça, justement
On aurait peut-être un regard différent, mais je pense qu'effectivement, il ne s'agirait pas forcément de le juger à l'aune de la réalité qu'on a aujourd'hui. Justement, c'est toute cette énergie, cette philosophie, cette période de la nouvelle vague, ce que ça a impulsé pour le cinéma français et le cinéma à l'échelle mondiale aussi. Et puis cette représentation à travers la gueule finalement qu'il avait et sa voix, le rapport au langage aussi qu'il avait. Moi, c'est ce qui m'a fasciné beaucoup dans le personnage. Et quand on écoute...
Le titi parisien un peu.
Absolument, ouais. Oui, tout à fait. Moi, je suis une élue du 6e arrondissement, donc j'ai pu assister de loin ce matin à la cérémonie à l'église de Saint-Germain-des-Prés et on croisait certaines personnes qui nous disaient mais oui, on le voyait à la brasserie Lippe, au café de Flore. C'était quelqu'un
qui était
parmi les gens. Ouais. Il était extrêmement accessible et modeste. Je me souviens d'une interview que j'avais entendue donc, à l'occasion des hommages où on lui demandait s'il pensait qu'il allait rester dans le paysage du cinéma français. Il avait pris cette question avec beaucoup de modestie, en s'en remettant finalement au destin. Et voilà, l'avenir a montré qu'il est resté évidemment un personnage incontournable où chacun pouvait s'identifier à lui. Et ce rapport aux femmes et à la séduction aussi, voilà, qui lui était propre, mais qui fait partie aussi de son personnage.
Louis Dragnel, qui aurait voulu jouer l'enfant dans L'As des As. Non
absolument. Ah, c'est, pourquoi pas hein. Attention,
mais c'est trop tard.
Non, mais ben oui, c'est un peu tard. Là. Non, mais c'était... je trouve qu'en fait, il dit beaucoup de choses à la fois de l'époque dans laquelle il a vécu, et il dit beaucoup de choses aussi de notre époque aujourd'hui. C'était quand même, pour moi, c'est la France du panache, c'était la France un peu de la virilité, de l'humour, de la liberté. Et c'est surtout pas la France du wokisme, c'est surtout pas la France de la théorie du genre, c'est surtout pas, vous voyez, c'est pas la France bobo, quoi. C'était, il y avait encore un projet commun, en fait, à cette époque-là, dans la société. Il y avait une sorte d'accord entre toutes les catégories de la population et qui arrivait à se fédérer autour, justement, d'acteurs qui étaient un peu des références et qui réussissaient à parler à tous. Et aujourd'hui, le drame, c'est que la société est fracturée. Il y a des acteurs qui sont des héros dans certaines communautés et pas d'autres. D'ailleurs, vous voyez, je parle de communauté. Donc, c'est un lapsus révélateur. Et voilà. Et en fait, je trouve que c'est le révélateur du fait qu'à l'époque, il y avait encore quand même un pacte commun et qu'aujourd'hui, hélas,
regardez la dernière cérémonie des Césars. Ça n'a été que des revendications communautaires et
autour de Roman Polanski, de la polémique Polanski.
Là, sur des micro-niches de la société, la pandémie, ça n'était que
de cette année.
Des histoires de racisés, de machins. Et combien il y a de noirs dans la salle, et combien il y a de blancs, et combien il y a de machins. Ça n'a été qu'une succession de discours victimaires et de revendications identitaires.
Et qui divise la société. Parce qu'on
voit bien que le cinéma
d'aujourd'hui, si ça fédérait autant, c'est parce que précisément, il y a avait un accord, une sorte de pacte commun. Et ce que vous dites est très intéressant, parce que le drame, c'est que tout est maintenant segmenté, effectivement, avec le nombre de racisés, les Arabes, les Blancs...
La France, aujourd'hui, n'est plus... alors, évidemment, elle n'est plus la même, vous serez d'accord avec ça, mais le
train... c'était mieux avant. C'est ça que vous voulez dire.
J'ai toujours du mal à répondre oui à cette question, déjà parce que je trouve qu'on porte toujours un regard plus dur sur les époques qu'on traverse, nous, que sur les époques qui sont passées, parce qu'on garde les bons souvenirs, et c'est aussi, justement, cet hommage populaire, c'est aussi, on se souvient des bonnes choses. choses, mais j'imagine que la société à l'époque, on ne l'a pas vécu, mais avait une il y avait des fractures qui existaient,
évidemment,
qui traversaient.
C'est ce
la
que
société.
J'allais vous dire. Oui. Et donc, on parle de la France de Pompidou, mais sous la France de Pompidou, il y avait des crises sociales, il y avait la crise du pétrole qui est arrivée, il y avait énormément de choses.
Il y avait encore le TGV, il y avait mal de choses.
Il y a aussi aujourd'hui Thomas Pesquet, il y a l'équipe de France de football, il y a plein de choses.
Vous êtes avec un smartphone entre les mains, mon cher Louis, vous n'aviez pas ça en 1971.
On dort
la question, c'est de savoir qui est-ce qui incarnera ça, et c'est ce que vous allez nous poser juste après.
Justement,
je n'ai pas forcément de réponse, mais je me demande si on peut juger. Est-ce qu'on peut juger maintenant de l'avis qu'on aura sur des personnalités qui incarneront cette union nationale ou cette unité nationale? Et ce que j'ai trouvé beau dans cet hommage, c'était aussi ce qu'a demandé la famille, je crois, et que l'Élysée a accepté, c'était le fait de faire rentrer des gens à l'intérieur des Invalides pour qu'il y ait un public extérieur, parce que ça montrait bien, et c'est ce qui était dit tout à l'heure.
Voilà, il y avait Jean Dujardin qui racontait, il disait quand on allait avec Belmondo au restaurant, il acceptait tous les selfies. Et il restait debout le temps que les gens signaient tous les autographes. Il dit, moi, parfois, ça me saoule. Au bout de vous êtes au restaurant, la troisième personne, vous dites non, désolé, c'est un moment privé. Et il dit, Belmondo, aussi Belmondo qu'il était et star, il aurait pu envoyer bouler les gens. Et il disait, il signait jusqu'au dernier autographe et il prenait jusqu'à la dernière photo.
Et
après, il disait, on peut déjeuner, maintenant, j'ai fini.
Et quand quelqu'un était timide, il faisait signe à la personne de venir. C'est-à-dire qu'il voyait bien qu'on le regardait un peu intensément et il disait, venez.
Ça m'est arrivé
avec Roger Moore. J'étais comme ça en train de le regarder, puis c'est lui qui a dit venez, etc. On va parler de. Vous parliez du jardin, ça tombe bien.
Timide, donc,
je suis très timide. on parlait du jardin et on se dit qui pourrait remplacer. C'est terrible de se dire qui pourrait remplacer Jean-Paul Belmondo. Qui joue le rôle de Jean-Paul Belmondo aujourd'hui dans cette grande famille des acteurs? Le nom qui revient le plus souvent, je suis désolé, c'est Jean Dujardin. Il est souvent cité, mais lui-même, forcément, il doute un peu.
C'est un médicament, hein, Jean-Paul Belmondo. Il fait du bien. C'est la vie en mieux. Ouais. Il fout la pression. Hein. Il va falloir. Mais il n'y en a qu'un.
Il n'y en a qu'un. Voilà.
Il n'y en a plus qu'un.
La messe est dite.
C'est le dernier des grands.
Mais il ne peut pas répondre autre chose. Enfin, imaginez Jean Dujardin qui dirait le prochain Belmondo, c'est moi. On se dirait, mais qu'est-ce qu'il dit
Vous connaissez mal les acteurs, parce qu'il y en a qui disent
ça. Un des acteurs préférés des Français, c'est quand même Omar Sy, qui incarne aussi cette bonhomie, cette fraîcheur, qui a un charisme extraordinaire, qui a joué dans des films qu'on a tous vus et qu'on connaît. Et c'est aujourd'hui un des acteurs favoris des Français et des personnalités même préférées des Français.
Si je peux
peut-être qu'il pourrait.
Pardon, mais il n'y a pas le côté fédérateur chez Omar Sy. Bien sûr, moi, il me fait rire dans des films. C'est là, j'ai trouvé ça drôle.
Mais il a
des prises de position politiques avec sa compagne Hélène Sy, ou depuis une maison. De milliardaires depuis les États-Unis, ils passent leur temps à donner des leçons sur ce qui se passe dans les banlieues françaises et à expliquer qu'il y a du racisme d'État et qu'il y a... c'est des discours qui me paraissent pas pouvoir fédérer les Français. Ce qu'on attend d'un acteur, c'est pas qu'il nous fasse des leçons de morale politique. Sinon, on a des politiques.
Il fait pas que des leçons de morale. Il va aussi sur le terrain à la rencontre des jeunes, justement, qui n'ont plus ces rêves-là.
Avec un discours un peu
victimaire, qui n'espère pas que ça va leur arriver.
Qui, moi, me dérange.
Et qui porte un message d'espoir pour toute une génération qui pense que ce n'est pas possible, ce n'est pas accessible parce qu'ils sont parfois issus de quartiers populaires et on leur donne pas les chances. Et forcément, Omar Sy représente justement un modèle, un exemple pour cette jeunesse-là. Donc, effectivement, après, ses positionnements politiques, c'est humain, mais il peut incarner aussi
On va le garder, ce plaidoyer de Céline Hervieux à Omar Sy. On va lui envoyer la
bande.
Mais qu'Omar Sy puisse représenter un symbole de réussite pour des jeunes, évidemment, je l'entends et je peux le comprendre. Après, moi, ce qui me dérange toujours, c'est des gens qui ont réussi dans la vie, qui se sont mis à l'abri, qui ont mis à l'abri leurs enfants et qui assènent de discours victimaires des jeunes qui ont tout à construire en leur disant, mais parce que tu es un petit arabe ou un petit noir, tu vis dans un pays raciste, islamophobe, négrophobe, et donc tu n'y arriveras pas. Au contraire, moi, je préférerais que ces gens-là, un peu connus, les Camélia Jordana, tous les gens qu'on a entendus défiler avec la famille Traoré, disent aux jeunes des quartiers ce que vous avez dit. Ce sera plus dur, peut-être, pour vous. Ce sera plus compliqué. Vous aurez plus d'obstacles à franchir. Mais vous êtes dans un beau pays, et donc vous allez y arriver.
Mais du coup, ça répond un peu à votre question sur les fractures de tout à l'heure. On y revient. Ouais. Et donc, ça montre qu'il y a cette existence de fractures dans la société. Après, je pense qu'il ne faut pas résumer résumer Omar Sy à ses positions politiques, même si je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais effectivement, il y a dans le personnage que joue Omar Sy, et au-delà de ce qu'il peut dire, et la question c'est, je ne sais pas, est-ce que Jean-Paul Belmondo à son époque...
Parlez dans le micro.
Est-ce qu'il avait pris des positions politiques à son époque? Peut-être que c'était le cas et qu'on ne s'en souvient pas. Il y a peut-être ça aussi, et donc on gardera ce qu'on gardera d'Omar Sy. J'espère que ce ne sont pas ses positions politiques.
Mais il est
bien
mort,
la qualité
hein,
des films.
Dire à nos auditeurs qui ont
bien quelques dizaines d'années.
Merci à vous, merci à Ambroise Méjean, Céline Hervieux, merci à Amine El Khatmi et Louis Dragnel d'avoir participé au débat d'Europe Soir. Dans un instant, même tout de suite, c'est Lionel Rousseau pour le Studio des Légendes. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Pierre, nos légendes sont là. Nous allons consacrer évidemment une partie de cette émission à une grande légende du sport, puisque Jean-Paul Belmondo était aussi un grand sportif et surtout un sportif de haut niveau, puisqu'il a combattu professionnellement en boxe. Et pour en parler avec nous, Fabien Anteniente, Charles Villeneuve, Guy Roux, Thierry Bretagne, Louis Acariès, aussi dans le cadre du match de foot entre Lorient et Lille à 21h. A tout de suite.
Merci mon cher Lionel. Dans un instant, le journal.